Donc si vous avez vos Bibles, si vous pouvez retourner à Philippiens et chapitre 1. Nous allons regarder le verset 2 dans un instant. Mais sans tourner, j'ai mis les textes ici sur l'écran, mais je veux vous montrer que notre texte ce matin est trouvé dans le chapitre 1 de Romains et le verset 7 qui dit « À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Et notre texte ce matin est trouvé aussi dans 1 Corinthiens chapitre 1 et verset 3 qui dit « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Et notre texte ce matin est trouvé aussi en 2 Corinthiens chapitre 1 et verset 2 « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Et notre texte ce matin est trouvé en Galates chapitre 1 et verset 3 qui dit « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et notre texte ce matin est trouvé en Éphésiens chapitre 1 verset 2 « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Et de peur que vous craigniez que nous avons abandonné Philippiens, je vous assure que notre texte se trouve en Philippiens chapitre 1 verset 2 « Que la grâce et la paix vous soit donné de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Alors, je vais prêcher ce matin sur la grâce et la paix. Ces deux mots. Et si vous êtes un peu découragé par le fait que nous avançons très lentement, je veux vous rappeler que nous venons de lire 6 versets dans 6 épîtres différentes. Et donc, je vais vous prêcher sur tous ces versets, dans toutes ces épîtres, quand même, c'est plutôt beaucoup pour un sermon, vous ne trouvez pas? En tout cas, regardez le verset 2 encore. « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Je voudrais faire 4 observations principales sur ces idées de grâce et de paix données de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Notre première observation, en tant qu'introduction vraiment, c'est que c'est une salutation. Comme on a dit la semaine passée, c'est une salutation. On a observé l'autre fois que toutes les lettres de Paul commencent par, premièrement, le nom de l'auteur, c'est-à-dire Paul, ou des fois Paul et Timothée, ou des fois Paul et ceux qui sont avec lui. Et puis, deuxièmement, le nom des destinataires, c'est-à-dire les Éphésiens, ou peut-être Timothée, ou Tite, ou les Corinthiens. Et puis, troisièmement, une salutation. Donc, si vous regardez Philippiens chapitre 1, le verset 1 contient les noms et les désignations de l'auteur et des destinataires. Et puis, le verset 2, c'est la salutation. Donc, c'est une salutation, tout simple. Et la salutation courante en hébreu, il disait quoi? Quelqu'un sait? Il disait souvent « shalom », « shalom », qui veut dire « paix ». Et Paul ici emploie son équivalent grec, « eirene », qui veut dire « paix ». Donc il prend la salutation hébreu. Et puis la salutation courante en grec, même dans le monde grec du jour de Paul, était « karein », ou qui voulait dire simplement « salutation ». Et Paul, dans un jeu de mots merveilleux et inspiré, il change le karein en charis, qui signifie grâce. Et donc, il dit karein et eirene, grâce et paix. Et donc, la salutation n'est pas simplement une formalité qu'il faut faire avant d'écrire la lettre. Parce que Paul n'était pas simplement un écrivain des lettres. Il était un écrivain chrétien d'abord, donc il y a un sens chrétien dans tout ce qu'il écrit. Et au-delà de cela, il était un théologien, n'est-ce pas? Et au-delà de cela, il était inspiré, un écrivain chrétien, théologien, inspiré Et c'est ainsi qu'il écrit ses lettres. Donc, je sais qu'en nous lisant peut-être Philippiens chapitre 1, nous sommes tentés à passer rapidement par-dessus la salutation pour arriver au corps de la lettre, comme si on regardait rapidement en tête d'une lettre. Mais l'essentiel de la lettre, on se dit, ça doit être dans le corps de la lettre. Ça, c'est simplement la salutation, c'est simplement l'introduction. On peut vite y passer et continuer. Pourtant, je crois que le fait que cette salutation est si commune et si nettement chrétienne que ça a une importance qu'on ne peut pas simplement le passer et le négliger. Nous devons prendre quelque temps avec cette salutation. Pourquoi le Saint-Esprit menirait-il Paul à saluer les chrétiens ou les croyants dans chacune de ses lettres, n'importe leur ville, n'importe le métier, n'importe leur position sociale, avec ces mots? Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Évidemment, c'était quelque chose d'important pour Paul. Voici une salutation qui est appropriée pour chaque croyant et chaque âge. Grâce et paix. Depuis quelque temps, je signe souvent mes lettres, si c'est un autre chrétien, ou mes mails. À la fin, je mets grâce et paix, ou que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. C'est une salutation qu'on peut bien utiliser aujourd'hui. Je me rappelle quand je me suis rendu en Roumanie, quand j'étais adolescent, et tous les chrétiens se saluaient en disant « pace », qui voulait dire « paix ». C'est comme ça que les chrétiens se saluaient. Peut-être dans votre pays d'origine, vous avez une salutation comme ça. Mais ici, au début, ils disaient souvent « grâce et paix », parce que le mot « grâce » soulignait la provision libre et gratuite du salut qui vient de Dieu, et le mot « paix » indiquait le caractère de notre salut. C'est un salut rempli de paix. Donc c'est une salutation. Mais on va continuer. Au-delà de cela, c'est deuxièmement une prière. C'est une prière. Vous voyez, quand il dit, quand il leur donne cette salutation, l'élément de supplication envers Dieu dans cette salutation est incontestable. C'est clair que Paul demande à Dieu que la grâce et la paix soient avec eux. C'est une prière pour ces gens. C'est le désir, c'est la prière de Paul. Et pas pour le non-croyant, bien qu'il a besoin de la grâce et de la paix. Mais ça, c'est pour le croyant qu'il prie ces choses. Et si vous êtes un croyant aujourd'hui, c'est ce que Paul prierait pour vous. Pierre, dans ses deux épîtres, il revient à ce même thème. Il indique aux croyants dispersés à l'étranger par la persécution, d'abord il dit « Que la grâce et la paix vous soient multipliées ». Vous voyez, il parle aux chrétiens, et il veut que la grâce et la paix soient multipliées. Dans sa deuxième lettre, il dit presque la même chose. « Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. » Pierre a voulu que la grâce et la paix de Dieu soient non seulement présents dans les vies des croyants, mais qu'ils multiplient, qu'ils augmentent, qu'ils abondent. Et bien que Paul n'emploie pas le terme « multiplie », c'est clair que c'est sans doute son désir pour les chrétiens de Philippe. Alors, je dis aux chrétiens maintenant, n'importe combien d'années depuis que vous avez connu le Seigneur, vous avez besoin que la grâce et la paix vous soient multipliées aujourd'hui. De plus en plus. Et alors si vous ne savez pas quoi prier pour quelqu'un, vous pouvez toujours prier pour que la grâce et la paix leur soient quoi ? Multipliées. Si quelqu'un se trouve sur un lit d'hôpital, priez pour la grâce et la paix. Si quelqu'un a perdu son emploi, priez que Dieu lui donne la grâce et la paix. Si quelqu'un est en beau milieu d'une tragédie dans la famille, priez pour que la grâce et la paix leur soient multipliées. Chaque chrétien a besoin de ça. Presque chaque fois que Paul se mettait à genoux pour prier pour des chrétiens, il priait pour que la grâce et la paix leur soient multipliées. Nous devons le faire aussi. Souvent nous prions pour les têtes et les bras et les jambes et les... et je ne sais pas quoi d'autre, mais nous oublions de demander à Dieu qu'il leur donne la grâce et la paix, et c'est leur besoin fondamental. Et vous dites peut-être, bon, je ne sais pas ce dont ils ont besoin, mais je peux vous assurer qu'ils ont besoin de grâce. Ils ont besoin de la paix. Ils ont besoin que Dieu leur donne ces choses. Et ce n'est pas seulement leur et, on va dire, la nôtre plus grande nécessité, mais ça résume tous leurs besoins spirituels. On peut résumer tous nos besoins spirituels dans ces deux termes. Grâce et paix. Les premiers chrétiens savaient que la grâce de Dieu avait des ramifications dans chaque domaine de leur vie. Ils avaient besoin de la grâce de Dieu. Quelques exemples, je vous donne depuis Actes chapitre 14 et 15. Regardez, c'est Paul et Barnabas qui reviennent de leur premier voyage missionnaire et ils arrivent à Antioche d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Voyez, recommandés à la grâce de Dieu. Et puis le chapitre suivant, commençant son deuxième voyage missionnaire avec Silas, Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Le succès dans leur tentative missionnaire, même quelque chose si simple que la sécurité dans le voyage, était reconnu comme étant des ramifications de la grâce du Seigneur ou la grâce de Dieu. Et donc on vous donne, on vous recommande à la grâce de Dieu. Et c'est ce que nous devons faire avec nos enfants, nos parents, nos amis. On doit les recommander à la grâce de Dieu. Donc, c'est une prière. Mais troisièmement, nous voyons que la grâce et la paix, c'est l'évangile révélé. C'est en effet l'évangile révélé. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Et c'est étonnant tout ce qu'on peut dire dans si peu de mots. Quand le grand et glorieux évangile de notre Seigneur peut être résumé dans cette petite phrase. C'est incroyable. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons tous les éléments de l'évangile compris dans cette phrase. Quand on comprend ces deux mots, grâce et paix, nous voyons l'évangile de Christ révélé. Donc, je veux considérer ces deux mots pendant un moment. Qu'est-ce que c'est que la grâce ? D'accord ? Considérez ce mot grâce. Je crois que nous avons tous utilisé ce mot, nous avons déjà une idée de ce que ça veut dire, qui est probablement correct. On sait ce que c'est de faire grâce à quelqu'un, de connaître la grâce du Seigneur ou de Jésus-Christ, on en parle souvent. Mais le mot grec, dans sa signification la plus simple, c'est une disposition favorable vers quelqu'un. Une faveur, un soin, une aide aimable. Une bonne volonté, voilà, c'est la grâce. Une disposition favorable vers quelqu'un. Et quand la Bible parle de la possession du croyant, de cette faveur divine, de cette grâce, cette faveur divine, ça décrit à la fois une position que nous avons, une position favorable devant Dieu. Il nous met dans une position favorable. Et puis aussi une action bienveillante de la part de Dieu. Il nous fait grâce. Il nous grâce même avec des choses. Et en fait, le mot inclut normalement les deux, la position et les actes de Dieu envers nous. Quelqu'un dit que la grâce décrit l'action spontanée et immotivée de Dieu. La grâce ne trouve jamais sa cause dans l'objet de la grâce. La grâce n'est jamais donnée en raison de vertus ou retenue en raison des vices. L'activité rédemptrice de notre Seigneur est toujours un acte de cette grâce. Voilà une explication. Et la grâce est l'antonyme, c'est le contraire de quoi ? Des œuvres ou de la mérite. Le salut est soit par grâce, la Bible dit, soit par les œuvres, les deux ne peuvent pas être mélangés. On ne peut pas avoir la moitié grâce, moitié œuvre. C'est très clair en Romains 11 qui dit, suivez ce verset, « Or, si c'est par grâce, alors ce n'est pas par les œuvres. » Vous voyez ? Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Si c'est quelque chose de mérité, c'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Vous voyez, on ne peut pas les mélanger. C'est pour ça qu'on revient souvent ici, souvent expliquer, re-expliquer que le salut ne peut pas être basé sur les œuvres. Pourquoi ? Parce que la Bible dit, si c'est une œuvre, ce n'est plus la grâce. Et si vous avez la grâce, ce n'est plus à cause des œuvres. On ne peut pas dire, vous avez mérité la grâce. Il n'y a pas de sens dans cette phrase. on ne mérite pas la grâce. Si on mérite quelque chose, ce n'est plus la grâce. Et si c'est la grâce, c'est alors qu'on ne mérite pas. Encore nous voyons cette explication en Éphésiens chapitre 2. Car c'est par la grâce, vous voyez, que vous avez été sauvés par le moyen de la foi. D'accord ? Donc par la grâce, c'est-à-dire sur la base, à cause de la grâce et par le moyen de la foi. Et puis regardez cela. Et cela ne vient pas de vous. Vous voyez, il doit clarifier. La grâce, c'est pas vous. Vous, c'est plus la grâce. Il faut bien clarifier. C'est le don de Dieu. Et puis le verset 9, ce n'est point par les œuvres. Il clarifie encore, afin que personne ne se glorifie. Donc notez les deux choses qu'il dit. Ce n'est pas de vous-même, voyez ça, et ce n'est pas par les œuvres. D'abord, il dit ce n'est pas de vous-même, c'est-à-dire ce n'est pas humainement initié. Le salut n'est pas humainement initié. C'est pas moi qui décide. Ah, je vais me sauver. Car c'est Dieu, Philippiens 1:6, qui nous dit, qui a commencé en vous cette bonne œuvre. C'est lui qui la commence. Et puis, ce n'est pas humainement maintenu. Il y a des gens qui disent, bon, mon salut, c'est Dieu qui me le donne et c'est moi qui le garde. C'est moi qui dois maintenir mon salut. Je dois œuvrer maintenant pour maintenir mon salut, sinon je vais le perdre. Mais ce n'est pas humainement maintenu. Car Jésus a dit en Jean 10, verset 28, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Voyez ? Et puis en Philippiens, il dit que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Non, ce n'est pas vous qui produisez ces choses. C'est Dieu qui maintient, qui garde le salut. Et puis nous savons que le salut n'est pas humainement abouti parce que c'est ce même Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en vous ou dans les chrétiens. C'est lui qui la rendra parfaite pour le jour du Seigneur, n'est-ce pas? Et c'est notre Seigneur, comme on a lu tout à l'heure en Philippiens chapitre 3, verset 21, qui transformera le corps de notre humiliation et le rendra semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est lui qui va tout faire. Il a commencé, il le maintient et il l'accomplira. Tout mon salut, depuis A jusqu'au Z, puis l'alpha jusqu'à l'oméga, ça vient de Dieu par la grâce. Et notez que ce n'est pas par les œuvres aussi. Ce n'est pas par les œuvres. Il y a très peu de gens qui affirment la doctrine de la suffisance des œuvres. Je connais peu de gens, enfin je connais personne, qui pensent que je suis sauvé à 100% par mes propres œuvres. Mais il y a une erreur bien plus mortelle, dans l'emprise de laquelle se trouvent des millions même aujourd'hui, et c'est la croyance que les œuvres sont plus ou moins méritoire. C'est-à-dire, on va débattre si c'est beaucoup méritoire ou peu méritoire, mais les œuvres sont quand même plus ou moins méritoires. Mais vous savez, un chrétien, un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui est entièrement convaincu que le salut n'est pas par les œuvres. Pas par les œuvres. Pas même dans une toute petite mesure. Que mes œuvres ne sont pas méritoires. Et je crois que Romains 9, 16 résume ces deux vérités, que ce n'est pas de vous-même et que ce n'est pas par des œuvres, quand il dit « Ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, » voilà, ce n'est pas votre décision, ce n'est pas de vous-même, « ni de celui qui court, » ce n'est pas par vos œuvres ce que vous faites. Mais c'est de qui? C'est de Dieu qui fait miséricorde. Vous voyez ça, le salut est complètement, entièrement par la grâce. Et c'est pour ça que la Bible parle beaucoup de la grâce. Et j'espère que vous entendez ce prédicateur parlant beaucoup de la grâce. Paul, dans ses lettres, utilise le mot grâce au moins 100 fois que dans les lettres de Paul. Et la grâce est l'antonyme des œuvres, c'est le contraire. Mais c'est aussi le vainqueur sur le péché. C'est la grâce qui a vaincu le péché. Romains 5 et verset 20 nous dit, suivez-le, « Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât. C'est-à-dire, Dieu a donné la loi, pas pour régler l'offense, mais pour que ça grandisse. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Vous voyez, c'est la grâce qui règne sur la mort. C'est le vainqueur. Et vous rappelez-vous que j'ai dit que la grâce se réfère à une position favorable et à une action bienveillante. Cette position devant Dieu, et puis ce qu'il nous donne, tout ce qu'il nous fait, c'est par grâce. Mais regardez, et tournez s'il vous plaît dans vos Bibles, si vous pouvez le trouver, dans 2 Corinthiens chapitre 12. Parce que je veux que vous regardiez l'explication de la grâce. Nous apprenons quelque chose de nouveau ici concernant la grâce et ce que c'est la grâce dans la vie des croyants. 2 Corinthiens chapitre 12 et le verset 7. Et c'est Paul qui parle, il donne son témoignage, 2 Corinthiens 12, verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et verset 9, et il m'a dit, quoi ? Ma grâce. Vous voyez ça ? Ma grâce. Et je propose que vous souligniez ces deux mots, ma grâce, te suffit, car ma puissance, et puis soulignez maintenant ces deux mots, s'accomplissent dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ, ça revient encore, repose sur moi. Vous voyez le raccordement? Regardez-le encore. Ma grâce, ma puissance, la puissance de Christ, ce sont des synonymes. Il dit, ma grâce te suffit. Pourquoi? Car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et donc Paul dit, je vais me glorifier dans ma faiblesse, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi la grâce est plus qu'une position favorable, c'est plus qu'une action bienveillante de Dieu envers nous, c'est une puissance offerte. C'est vraiment la force, la puissance de Jésus-Christ dans la vie des croyants. La grâce, c'est la faveur de Dieu qui fortifie. C'est pour ça qu'on a dit, on a besoin de la grâce pour surmonter le péché, il faut conquérir le péché dans ma vie. J'ai besoin de la puissance de Jésus-Christ, la puissance de Dieu. C'est ça, sa grâce en moi, c'est une puissance en moi. C'est pas simplement que les choses sont réglées, je suis mis dans une position favorable envers Dieu, ou que Dieu me montre des dons et des cadeaux que je ne mérite pas, mais c'est que maintenant il vient en moi et il me fortifie, il me donne sa puissance, il me donne sa grâce pour vivre la vie chrétienne. Si vous connaissez pas ce que c'est d'avoir la force du Seigneur, peut-être vous connaissez pas sa grâce. Vous avez besoin, en tout cas, de sa grâce. Vous voyez pourquoi Pierre et Paul et tous les autres étaient toujours en train de dire que la grâce soit multipliée. On a besoin encore de cette puissance chaque jour de nos vies. Maintenant, retournons de nouveau à notre texte et considérons la paix, ce que c'est la paix. Parce que le croyant éprouve non seulement la faveur et l'aide imméritée de Dieu, mais il nous donne la paix. Et c'est ça qui rend le salut et l'évangile une bonne nouvelle. Hein, on dit que c'est une bonne nouvelle. Pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle? Eh bien, qu'est-ce que les anges ont chanté à la naissance de Jésus-Christ en Luc chapitre 2? Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et quoi? Paix, paix sur la terre, maintenant que Jésus est venu. Paix sur la terre, parmi les hommes qu'il agrée. Ça, c'est au tout début de sa vie. Et puis, juste avant de mourir sur la croix, juste avant la fin de sa vie terrestre, il a dit à ses disciples, en Jean 14, il a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous voyez, je vous donne ma paix. C'est le don de Christ pour tous les croyants. En Jean chapitre 16, il dit presque la même chose. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc vous pouvez avoir la paix en moi. Alors ce mot paix, d'un côté ça communique l'absence des hostilités, donc il n'y a pas guerre, il y a la paix. Mais le mot signifie beaucoup plus que cela quand c'était utilisé par les écrivains bibliques. Le mot trouvé, comme j'ai dit tout à l'heure dans l'Ancien Testament, c'était le mot shalom. Un mot qui portait des notions positives de bien-être, de la bénédiction, de la prospérité de Dieu sur la vie, de sur ceux qui étaient les destinataires de la grâce de Dieu. Et donc, quand nous pensons de la différence entre la grâce et la paix souligne la fourniture libre de salut, ça vient gratuitement, mais la paix décrit le caractère de ce salut. Il est comment ce salut? On peut le décrire comme ça, c'est la paix. Et on peut le comprendre dans deux sens. D'abord, la paix parle tout d'abord de notre rapport légal avec Dieu. Quand on veut dire, êtes-vous en paix avec Dieu? C'est-à-dire votre vie. Avez-vous fait la paix avec Dieu? Il y a plusieurs versets qui soulignent ce fait, comme en Éphésiens chapitre 2. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés maintenant par le sang de Christ, car il est notre quoi? Il est notre paix. Vous voyez ça? Vous étiez éloignés, maintenant vous êtes rapprochés à Christ par le sang de Jésus-Christ, car il est notre paix. Éphésiens 2, 13 et 14. Et puis un de mes versets préférés dans la Bible, Romains 5, 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons maintenant la quoi? La paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça, si vous allez, ne tournez pas ce matin, mais si vous allez à Romains 10, verset 15, la Bible appelle l'évangile un évangile de paix. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. C'est une paix, une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle de paix, un évangile de paix. Et Dieu s'appelle dans Romains 15, 33, le Dieu de paix. La Bible indique que quand vous êtes venu dans le monde, hein, ça c'est vrai pour tout le monde ici, quand vous êtes venu dans le monde, en même temps que tout petit bébé, vous étiez l'ennemi de Dieu. Vous n'êtes pas forcément levé chaque matin avec un esprit, un sentiment d'inimitié contre Dieu. Vous auriez pu même vous penser ami de Dieu, dans des bons termes avec Dieu et qu'il est favorable envers vous. Mais quand même, vous étiez un ennemi, parce que vous étiez dans le camp de l'adversaire. Hein, vous faisiez partie de l'ennemi, de l'armée de l'ennemi. Vendredi soir, avec les étudiants, on se posait la question, comment il peut y avoir des gens qui sont très sympas, très gentils, qui font beaucoup de bonnes œuvres, et sont à la même fois pécheurs, éloignés de Dieu, ennemis, méritant la mort? Et j'ai pensé à une illustration que j'ai entendue il y a longtemps, mais d'un prédicateur qui a vécu dans les années 1800 en Angleterre. Il a raconté l'histoire d'un groupe de marins qui se sont révoltés contre leur commandant du bateau. Et ils l'ont tiré et l'ont jeté sur une île déserte, loin de tout. Et puis ils sont partis. Après qu'ils se sont débarrassés du commandant du bateau, ils ont réalisé, ils ont constaté qu'ils avaient besoin d'un certain ordre pour que le bateau reste à flot. Et donc tout le monde était donné des tâches ou des responsabilités. Ils ont commencé à bien travailler ensemble. Ils se sont aidés, ils étaient courtois, gentils. En fait, ils sont devenus exemplaires dans leur politesse, dans leur bonté, dans leur compassion l'un pour l'autre. Ils étaient les plus gentils de tous les marins du monde. Mais un jour, un des marins a été frappé par la réalité. Il a assemblé ses frères là dans le bateau. Et il a dit, « Mes amis, nous sommes des bandits. Et dès qu'on arrive au port, nous allons être jugés et suspendus même comme des vrais bandits. »
Et vous voyez, c'est comme ça avec chaque individu qui n'est pas en Christ. Vous pouvez être très charitable, plein de bonté envers vos semblables, envers vos confrères marins, si vous voulez, sur le bateau. Mais vous êtes un bandit. Et vous vivez dans la rébellion au commandant du bateau. Et dès que vous arrivez au port, quand le jour de jugement arrive, vous allez être jugé et condamné, pas selon votre personnalité aimable, mais à cause de votre rébellion contre le commandant du bateau. Et la mort, qui surviendra certainement, sera cette activité pénale. La justice de Dieu contre votre rébellion. Vous péchez, vous mourrez, la Bible dit. Et c'est le seul salaire juste qu'on peut recevoir en échange pour nos péchés. Et quand on parle aux gens de ça, c'est là où on voit l'hostilité des gens contre Dieu. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, je suis l'ami de Dieu, oui, je suis sympa avec Dieu, je le veux bien comme ami, quoi, j'ai besoin de lui de temps en temps. » Mais dès que vous parlez du jugement de Dieu contre les rebelles, on voit l'hostilité des gens contre Dieu. Les hommes rejettent un Dieu qui juge les pécheurs et condamne en enfer un être humain. Et pourtant, on ne peut pas changer ce qui est Dieu. Dieu est Dieu, on ne peut pas lui changer. Il est juste en le faisant, qu'en nous considérant nos péchés, notre rébellion, il est juste en nous condamnant. Et vous voyez, c'est ça qui rend le mot « paix » si beau. Si nous constatons notre position devant Dieu, ennemi, condamné à la mort, et puis, vous l'ennemi, déjà condamné par la cour du ciel, vous le pécheur, vous le bandit, vous le rebelle, vous pouvez être justifié par la foi et avoir la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Imaginez cela. Vous pouvez avoir la paix avec Dieu, ça c'est une bonne nouvelle. Éphésiens 2.13 qu'on a déjà lu dit « Maintenant Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. » La paix parle de notre rapport légal avec Dieu. On était ennemis, mais on peut devenir amis, on peut changer de camp, on peut quitter l'ennemi pour être transporté dans le royaume de Dieu. Et devenir un ami et avoir la paix entre nous. Mais aussi la paix parle dans la Bible également de notre relation dynamique avec Dieu. Notre relation entre nous deux, entre Dieu et moi. Parce que le chrétien a non seulement la paix avec Dieu, il reçoit la paix de Dieu en lui-même. Il peut connaître dans ses sentiments, dans son cœur, ce que c'est d'avoir la paix de Dieu. Et quand on a chanté tout à l'heure de la paix de Dieu, c'est de cette paix qu'on chantait. La paix que Dieu nous donne en toutes circonstances. Romains 15 nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Vous voyez, ça c'est la prière encore de Paul. Qu'il vous remplisse de cette paix. Que votre cœur soit rempli de la paix de Dieu qui vient bien sûr par la foi. Et Philippiens parle en chapitre 4 de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça c'est la paix dans cette relation dynamique avec Dieu que nous avons, de jour en jour. C'est la paix vécue et concrète qui est bien sûr le résultat normal de la paix objective et pénale avec Dieu. Je crois que nous pouvons comprendre la différence et la relation entre les deux. Par exemple, prenons une mère qui a deux petits-enfants. Et elle habite dans un pays empêtré dans une terrible guerre civile. Il y a la mort partout. Et donc, elle est quotidiennement inquiétée, préoccupée, craignant pour la sûreté de ses enfants. Elle ne dort pas bien le soir. Elle a toujours peur pour ses enfants. Parce que le pays est en guerre. Mais un jour, les deux côtés font la paix. C'est une paix objective, c'est une paix pénale ou légale. Ils font la paix. Et qu'est-ce qui se passe au cœur de cette mère? Elle ressent la paix ou la tranquillité. Elle n'a plus à craindre pour la sûreté de ses enfants. Vous voyez, elle approuve la paix parce que le pays est maintenant en paix. Et c'est comme ça avec Dieu. Nous pouvons éprouver la paix à l'intérieur que quand nous avons fait la paix avec Dieu. Parce que si on est toujours l'ennemi de Dieu, on ne peut pas connaître cette paix en nous. Et c'est ainsi que vous n'allez jamais connaître une paix réelle à l'intérieur jusqu'à ce que vous avez fait la paix avec Dieu. Et vous avez changé de camp pour plus être l'ennemi de Dieu, mais pour être l'ami de Dieu en Christ. Et donc nous voyons que nous avons non seulement une salutation et une prière, mais nous avons également l'évangile révélé. Ça, c'est l'évangile. La bonne nouvelle de Dieu, c'est que par sa grâce, il nous donne sa paix. La paix avec Dieu et la paix de Dieu. Connaissez-vous cette grâce et cette paix? Nous voyons que c'est l'évangile révélé, mais finalement, considérez le fait que c'est l'évangile appliqué. C'est l'évangile appliqué. Et par ça, je veux dire que la grâce et la paix ne sont pas que la vérité de l'évangile révélé, dehors, à l'extérieur de nous, mais c'est l'évangile établi, approprié, étoffé, si on veut dire. C'est un peu la différence entre regardant quelque chose derrière une vitrine verrouillée, comme dans un musée, on peut regarder les choses mais on ne peut pas y toucher, et de pouvoir prendre en main pour inspecter, pour regarder, pour bien connaître. L'un de l'autre, on le voit de loin. Mais dans le deuxième cas, on peut le connaître avec nos mains, on peut le toucher, on peut l'amener chez nous. Et l'évangile n'est pas quelque chose d'ésotérique, quelque chose d'obscur ou de mystérieux, déconnecté de nos vies. La grâce et la paix, ce que je veux souligner maintenant, ce sont des réalités conçues par Dieu pour connecter avec vous, pour utiliser une illustration de l'informatique, pour connecter avec vous quand vous vous rendez au bureau ou en classe le lundi matin et que vous êtes fatigué, pour connecter avec vous quand votre chambre ou votre maison est la grande pagaille et vous n'avez pas l'énergie pour le nettoyer, pour connecter avec vous quand le docteur vous dit qu'il y a des mauvaises nouvelles. C'est quelque chose qui entre dans nos vies, qui est appliqué à nos vies, qui change nos vies. La grâce et la paix sont des réalités vivantes et ils ont une signification à notre vie. Et ici, nous trouvons dans ce verset le point de la connexion, là où on trouve la grâce et la paix. Et aussi, nous voyons le moyen de connexion. Ils sont tous les deux expliqués. Regardez encore le verset 2 de Philippiens chapitre 1. Il dit pas simplement grâce et paix, voyez? Mais il dit que la grâce et la paix vous soient données. Et puis il dit de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, vous suivez là dans vos Bibles, il y a un objet qui reçoit la grâce et la paix, et il y a une source qui produit la grâce et la paix. Et tandis que les mots « grâce » et « paix » révèlent l'Évangile, les mots « vous soient donnés » et les mots « de la part de », ils expliquent là la mise en scène de l'Évangile. Ces dons de grâce et paix sont donnés à quelqu'un et elles sont de la part de quelqu'un. Vous voyez ça? Donc, notez premièrement sous cette rubrique de l'évangile expliqué, les objets de l'évangile. Les objets de l'évangile. C'est qui reçoit cet évangile? Regardez le verset. Que la grâce et la paix vous soient données. Pour le lire littéralement, grâce accordée à vous, ou simplement la grâce à vous. La grâce de Dieu à vous. C'est comme ça qu'il l'exprime. Et ce qui rend la grâce si importante pour nous, cette grâce de Dieu, cette grâce incomparable, inépuisable, est donnée à vous ce matin. C'est l'appropriation personnelle de Dieu dans nos vies, l'expérience personnelle, le plaisir de connaître pour nous-mêmes la grâce et la paix de Dieu dans nos vies. C'est pour vous, mes amis, c'est pour vous. Vous savez, ça serait une démonstration glorieuse de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu, si Dieu avait créé un monde et un univers que pour son propre plaisir. Mais ce ne serait pas la grâce. Quand, par contre, Dieu sauve un pécheur, alors là, c'est la grâce de Dieu qui est démontrée. et la beauté, la gloire de la grâce de Dieu deviennent plus clairs et plus lumineux quand c'est contre le contexte de nos péchés. C'est alors que nous voyons que c'est vraiment la grâce quand c'est contre le contexte des hommes et des femmes misérables. Ce n'est pas tout simplement la grâce, mais c'est la grâce à vous. Pensez aux pécheurs que vous êtes. Pensez à la rébellion blasphématoire que vous avez vécue ou que vous vivez encore aujourd'hui. Et cette grâce de Dieu vous est donnée. Vous êtes donnée. Et quelqu'un dit, bon, je me sens pas digne. J'ai commis trop de péchés. Et c'est quoi la réponse à ça? C'est pour cela que c'est la grâce. Ça serait pas la grâce si vous étiez digne de la recevoir. Et c'est pour ça que c'est si merveilleux. C'est une grâce à vous. C'est pourquoi nous tend dans son chant connu partout dans le monde à dire en anglais Amazing Grace. La grâce émerveillante. That saved a wretch like me, qui a pu sauver un malheureux comme moi. Il était émerveillé par la grâce du Seigneur, qu'il puisse le connaître lui-même. Regardez si vous pouvez Éphésiens chapitre 2. Je veux que nous considérons encore, et si vous connaissez ces vérités depuis longtemps, eh bien, que votre cœur puisse adorer le Seigneur encore ce matin pour sa grâce. J'espère que ça ne devienne jamais quelque chose de lourd ou d'ancien ou de banal pour nous, la grâce qui nous est offerte chaque jour. Mais Éphésiens 2, chapitre 1, c'est qui reçoit la grâce? Regarde, il le dit dans le verset 1. C'est vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Voici les destinataires de la grâce. Vous, ceux qui sont morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Vous voyez, ça c'est nous, mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il, nous qui étions morts, nous qui étions ennemis de Dieu, il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Vous voyez ça? Voici les objets de la grâce de Dieu. Et regardez, il résume tout ce qu'il vient de dire dans ces premiers versets, dans cette petite phrase entre parenthèses. Quoi? C'est par quoi? Grâce que vous êtes sauvés. Quand vous considérez ce que vous étiez et ce que Jésus a fait pour vous, on le résume en disant, c'est par grâce. C'est par grâce. Et l'importance de ce mot grâce devrait être évidente par son placement dans chaque épître. C'est la première chose mentionnée dans tous les épîtres. C'est la chose la plus grande, car ça englobe toutes les autres bonnes choses que Dieu donne. Il les donne par sa grâce. Et malheureusement pour le chrétien, il associe souvent la grâce à sa conversion. Dieu m'a montré la grâce il y a 23 ans quand je suis venu au Seigneur et je lui ai demandé de me sauver. Et alors depuis 23 ans, qu'est-ce qui se passe? Hein? Je veux souvent demander ça. Et c'est à cause de cette fausse idée, notre gratitude et notre louange à Dieu pour sa grâce est souvent diminuée. Mais écoutez ceci, vous n'êtes pas moins sauvés par la grâce de Dieu aujourd'hui que quand vous êtes venu au Seigneur pour la première fois. Ce n'est pas moins la grâce de Dieu. Et vous savez qui sont les pires des pécheurs? C'est les chrétiens, parce que Jésus les a déjà montré sa grâce, il les a déjà sauvés, il les a déjà donné son esprit pour qu'ils puissent vaincre le péché et continuent à pécher. Les plus grands pécheurs du monde sont ceux qui sont déjà sauvés, qui par leur propre volonté choisissent de continuer dans le péché. Ils sont plus esclaves du péché, mais ils choisissent de pécher. Ah, nous avons péché contre Dieu tous les jours de notre vie. On ne peut pas énumérer nos péchés, on ne peut pas les compter, on ne peut pas les peser, ils sont plus grands que le monde entier. Et c'est à nous qu'il montre grâce aujourd'hui. Si vous avez été sauvés depuis 30 ans, La seule chose qui vous empêche de chuter directement dans l'enfer maintenant, c'est la grâce merveilleuse de Dieu. Et pensez-le comme ceci. Si Dieu choisissait d'éteindre sa grâce, hein, si ça pouvait se faire, comme on éteint la lumière, d'éteindre sa grâce, même pendant une seconde, nous serons tous perdus pendant toute l'éternité. Il nous porte, il nous soutient aujourd'hui par sa grâce. Chaque fois que nous respirons, chaque fois que nous levons le matin, c'est la grâce de Dieu. Combien de fois nous, en tant qu'enfants du roi, négligent et maltraitent la grâce de Dieu. Et Paul n'a pas voulu que les Philippiens oublient que le salut était par la grâce. Et vous savez, c'est par la grâce de Dieu que cette épître a été écrite. C'est par la grâce de Dieu qu'elle a été préservée, afin que nous puissions l'étudier ce matin. Et si nous allons apprendre quelque chose de cette épître, ce sera par la grâce de Dieu. Vous êtes ici ce matin par la grâce de Dieu. Oh, comme je souhaite pouvoir dépeindre devant vous la grâce de Dieu sous une forme réelle pour que tous puissent voir la richesse et la grandeur de sa grâce. Je ne suis pas assez éloquent, je n'ai pas le pouvoir de le faire, mais vous savez ce qui sera le témoignage le plus éloquent de la richesse de la grâce de Dieu dans les années à venir au ciel. Qu'est-ce qui sera le témoignage le plus élégant à la grâce de Dieu? Vous savez ce que c'est? Ce sera vous-même. Si vous êtes en Éphésiens 2, regardez le verset 7. Vous, un pécheur mort dans les péchés, regardez, c'est pour ça que Jésus vous a sauvé. Éphésiens 2, 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa quoi? De sa grâce par sa bonté envers vous en Jésus-Christ. Donc après qu'on est au ciel pendant 10 000 ans, hein, on va pas compter comme ça, parce qu'il n'y aura pas de temps au ciel. Mais vous allez peut-être me rencontrer et vous allez dire, mais pourquoi est-ce que tu es là? Et tout ce que je pourrais dire, c'est quoi? On m'a fait grâce. C'est la grâce de Dieu. Nous serons tous comme des trophées éternels à la grâce de Dieu. Bien sûr, nous n'allons pas le considérer, mais de la même manière que c'est la grâce qui vous est offerte, c'est la paix qui vous est offerte. Il y a une appropriation personnelle de la paix de Dieu à vous, dans votre position légale et objective devant Dieu, mais aussi dans la vie quotidienne, la relation dynamique avec Dieu. Donc, chrétien, ce matin, vous recevez grâce pour grâce, Jean 1, 16 nous dit. Et Dieu désire répandre sa paix dans votre cœur. Donc, cette grâce est donnée à quelqu'un, mais elle est également de quelqu'un, n'est-ce pas? C'est quoi la source de cette grâce et de cette paix? Notez encore notre verset. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule source, n'est-ce pas? Et la Bible ne dit pas, vous pouvez obtenir la grâce de Dieu notre Père et vous pouvez obtenir la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ah non, non! Ils sont qu'une seule source, une seule source de grâce. C'est de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas avoir le Père sans le Fils, vous ne pouvez pas avoir le Fils sans le Père. Vous savez, presque tout le monde admet qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu pour arriver au ciel. Tout le monde presque admet ça. Et je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a dit que leurs œuvres, comme j'ai dit tout à l'heure, allaient gagner complètement une place au ciel. Mais les gens, quand même, ils attendent que Dieu va quand même, laisser passer plusieurs choses. Quelque chose de mauvais, quand ils voient après tout, tous les biens qu'on a fait. Et quand atteindre le ciel en trouvant un Dieu plutôt aimable et favorable envers eux, à cause de ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, ils se trouvent qu'en eux-mêmes, il y a une source de grâce que Dieu va voir et qui va leur après montrer la grâce. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'il y a une seule source par laquelle on peut recevoir la grâce de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, la grâce et la paix sont données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit, nul ne vient au Père, quoi? Que par moi. Et Pierre a dit en Actes chapitre 4, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc je parle à celui ce matin ou celle ce matin qui cherche une paix du cœur. Vous voulez connaître la paix dans votre cœur. Ce monde vous offre une myriade de choix dans lesquels vous pouvez le chercher, mais il n'y a qu'une seule source. Je vous plaide, je vous demande de venir à Jésus-Christ. Et en conclusion, la salutation explique non seulement les objets et la source de la grâce et de la paix, mais aussi l'ordre, parce que c'est grâce avant paix. C'est toujours comme ça, c'est toujours la grâce avant la paix, parce qu'il n'y a jamais de la paix sans grâce. Quand vous comparez ces deux versets, Romains 3, 24, qui nous dit que nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, et puis le chapitre 5, verset 1, qui indique que nous sommes justifiés par la foi, c'est-à-dire par le moyen de la foi, nous avons donc la paix. Vous voyez, par la grâce, nous sommes justifiés par le moyen de la foi, et puis nous sommes donnés la paix. Ça, c'est l'ordre. Toujours dans cet ordre. Donc, est-ce que vous n'avez pas la paix de Dieu? Est-ce que vous êtes en paix avec Dieu? Sinon, vous avez besoin de la grâce de Dieu. Il faut vous humilier, il faut reconnaître vos péchés, votre manque de mérite, et il faut tout simplement demander grâce. Car Dieu, Jacques 4 nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais quoi? Il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc devant la main du Seigneur pour connaître cette grâce. Et vous pouvez connaître aujourd'hui, vous pouvez sortir de cette salle connaissant la grâce de Dieu et la paix de Dieu parce que vous êtes en paix avec Dieu. Et bien sûr, j'aimerais parler avec vous si vous voulez connaître plus de cette grâce et de cette paix. Mais je vous encourage de ne pas laisser un jour passer sans la chercher devant Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. N'attendez pas demain. Prions ensemble.